Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Et pour commencer, bien sûr, nous vous souhaitons une très bonne année en espérant que les fêtes vous auront permis de recharger vos batteries pour démarrer 2023 en forme. Oui, je vous vois osciller la tête, vous avez compris. Pour nous reconnecter en douceur, c'est justement de batteries dont il est question dans cette émission de rentrée. Téléphone, ordinateur, tablette, brosse à dents, rasoir, console de jeu, appareil photo, tondeuse à gazon, aspirateur, perceuse et maintenant trottinette, vélo ou voiture, la liste des appareils fonctionnant sur batterie n'a cessé de s'allonger ces dernières décennies, au point que brancher et débrancher un chargeur fait désormais partie de nos gestes les plus quotidiens. Pour autant, vous êtes-vous un jour demandé comment fonctionne une batterie ? Que se passe-t-il lorsqu'elle se charge, se décharge ? Quel processus magique se cache derrière ce petit dessin symbolisant une pile en cours de chargement ? C'est la question à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui. En effet, une équipe réunissant des chercheurs du Collège de France, du CNRS, de l'Université Rennes 1 et de l'Université de Montpellier ont mis au point une nouvelle méthode permettant de voir en direct à l'intérieur d'une batterie commerciale. Ça n'en a peut-être pas l'air, mais c'est une grande première qui a fait l'objet d'une publication dans Nature Energy. Notre invitée fait bien sûr partie de cette équipe. Elle est chercheuse à l'Institut Charles Guerhardt de Montpellier. Elle fait également partie de la dernière promotion des lauréats des prix de l'Académie des sciences. Marie-Liesse Doublé, bonjour et bienvenue dans Allume la science.
Bonjour, merci et meilleurs voeux à tous.
Merci. Elle revient chargée comme une pile électrique. Avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot. Bonjour Aline.
Bonjour.
En deuxième partie d'émission, nous partons à Géosciences Montpellier et c'est Michaël Bonneau qui nous accueillera au plateau de Géochimie. Enfin, l'invitée de la dernière minute s'appelle Aurélie Lieuvin et elle nous présente la saison 2023 des cafés et vidéos du CNRS. La première a lieu le 19 janvier et c'est à ne pas rater. Allume la science, vous avez le programme. C'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Et pour commencer, Marie-Liesse Doublé, donc on commence par une question en apparence simple. Qu'est-ce que c'est qu'une batterie ?
Alors une batterie, c'est un dispositif électrochimique qui va vous permettre de transformer l'énergie d'une réaction chimique en courant. Et donc de produire de l'électricité pour l'utiliser dans vos téléphones portables ou vos ordinateurs portables, par exemple.
Donc c'est de la chimie à l'intérieur.
C'est de la vraie chimie avec une batterie, c'est constitué de deux électrodes, le pôle plus ou le pôle moins qu'on voit en général sur nos batteries quand on les achète. Et entre ces deux électrodes, il y a ce qu'on appelle un électrolyte qui permet de faire passer les ions lithium plus, sodium plus, magnésium 2 plus, etc. Et en fait, au cours d'une charge ou une décharge de la batterie, les électrodes vont s'échanger les lithiums. Donc les ions lithium plus vont passer d'une électrode à une autre en charge et lycée de Versailles en décharge.
Et du coup, pareil sur une question qui paraît un peu évidente, mais du coup, c'est quoi la différence entre une batterie et une pile ?
Alors une batterie, c'est un dispositif secondaire, c'est-à-dire qu'il est rechargeable, à la différence de la pile qui, elle, n'est pas rechargeable.
Et du coup, vous nous avez parlé de la réaction électrochimique qui se produit. Qu'est-ce qui se passe un peu concrètement quand on va brancher le chargeur de notre téléphone ou d'une autre batterie pour essayer de la recharger à l'intérieur ?
Alors quand on branche sa batterie sur le circuit extérieur, on va fournir une énergie qui va permettre de faire repasser les ions lithium plus et les électrons de l'électrode positive vers l'électrode négative, alors qu'en charge, c'était l'inverse. Donc en charge, il y a l'énergie suffisante, la batterie a accumulé et a stocké suffisamment d'énergie pour que les ions lithium plus puissent passer d'une électrode, la négative, vers la positive, de manière spontanée, sans apport extérieur d'énergie. Et puis évidemment, mais il va falloir, pour faire la réaction inverse, cette fois-ci, il va falloir fournir l'énergie qui a été fourni par la batterie en décharge. Donc on refournit l'énergie et on fait repasser les ions lithium plus de l'autre côté. Donc on replace la batterie dans son état initial.
Alors là, vous nous parlez d'ions lithium plus, mais est-ce que toutes les batteries qui existent fonctionnent de la même manière et sur la base de la même réaction électrochimique ?
Alors les batteries qu'on appelle les batteries métal-ion fonctionnent toutes sur le même principe d'échange d'ions via l'électrolyte entre les deux électrodes. Et les ions peuvent être des ions sodium, lithium, magnésium, calcium, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'autres batteries, des batteries qui fonctionnent simplement avec des réactions, avec des métaux de transition. Il y a des batteries métal-air qui fabriquent du O2 ou qui transforment le dioxyde de lithium le peroxyde de lithium en oxygène gazeux. Voilà, il y a plein de types de batteries différentes. Ce serait un petit peu long de toutes les énumérer ici.
Alors, votre étude, elle suit l'évolution de la chimie d'une batterie commerciale en direct. Donc, on l'a dit, c'est une première. On a l'impression qu'il y a un secret, en fait, qui entoure le fonctionnement de ces piles. Ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur que...
Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en laboratoire, on fabrique des batteries qui ressemblent... qui sont très proches des batteries commerciales. Mais les industriels, quelquefois, pour améliorer leurs batteries, mettent... des petites choses dont ils ont le secret et on n'est pas toujours au courant de tout ce qu'il y a dans la batterie. Donc une batterie en laboratoire, en plus d'être à une petite échelle comparée aux batteries industrielles, elles peuvent fonctionner avec un petit peu moins de composants ou de constituants. Et donc étudier les batteries en laboratoire et les étudier avec les fibres optiques, c'est évidemment possible, mais étudier les batteries commerciales, c'est... encore mieux, parce qu'on peut être à même, du coup, de savoir ce que les industriels nous cachent et ce qu'ils mettent dans leurs petites batteries.
On va revenir sur votre méthode un peu plus tard, mais alors comment elle est venue, cette idée d'aller voir à l'intérieur d'une batterie?
Alors, cette idée-là, c'est évidemment pas mon idée, c'est l'idée de Jean-Marie Tarascon, qui est donc professeur au Collège de France, qui vient d'être médaillé d'or au CNRS en 2022, qui est un chercheur assez exceptionnel, qui a... alors qu'il est proche de la retraite, toujours autant d'idées que quand il avait 20 ans. Et il est toujours très actif en recherche. Et il a eu cette idée d'essayer d'aller sonder microscopiquement ce qui se passait dans une batterie avec ses fibres optiques.
Alors, vous nous avez parlé de justement ce que les industriels nous cachent sur les batteries. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font que c'est nécessaire aujourd'hui d'étudier le fonctionnement de ces batteries ?
Oui, tout à fait, parce que même si aujourd'hui on sait a priori comment fonctionne une batterie, parce qu'on met à la place des électrodes des matériaux qu'on connaît, donc on est capable de savoir combien ils vont échanger de lithium, on les connaît bien ces matériaux, mais ce qu'on connaît moins, c'est les processus de dégradation des matériaux au cours des cycles de charge-décharge. Donc votre batterie, c'est pas à vous que je vais la prendre, elle ne dure pas éternellement, et quelquefois on s'aperçoit que la charge est de plus en plus lente, de moins en moins profonde, et puis on a de moins en moins d'autonomie dans la batterie. Donc il faut absolument qu'on arrive à comprendre tous les mécanismes de dégradation des batteries. Et c'est grâce, en partie, à ces fibres optiques qu'on peut y arriver.
Alors, vous parlez des fibres optiques, donc on y vient à la méthode que vous avez mise au point. Donc, je vais reprendre là le communiqué que vous avez publié. Donc, la technologie que vous avez développée repose sur le transport de la lumière infrarouge dans des fibres optiques placées à travers la batterie. Donc, on va essayer de décomposer tout ça. Alors, d'abord, pourquoi une lumière infrarouge ?
Alors ça, c'est pas vraiment un choix. Disons que la fibre optique, elle va émettre à différentes longueurs d'onde, donc à différentes énergies. Et en fait, la composition chimique de cette fibre optique en particulier, chalcogénion de verre, elle émet au niveau de l'infrarouge. Donc l'infrarouge, c'est très intéressant pour nous, parce que l'infrarouge, c'est vraiment un rayonnement lumineux qui nous permet d'aller jusqu'à la liaison entre atomes. Donc c'est une sonde extrêmement locale qui nous permet de regarder comment les atomes bougent les uns par rapport aux autres au cours de la charge ou de la décharge.
Et est-ce que ça s'est déjà fait, ça, d'utiliser la fibre optique pour une étude similaire, pour étudier les batteries ?
Alors pour les batteries, non. Ça a été fait dans plein d'autres domaines, notamment en biologie. Mais c'est vrai que là, c'est une première pour les batteries. C'est pour ça que cet article a fait grand bruit. Et Charlotte Gervillier, qui est une chercheuse postdoctorante au Collège de France, a été donc le bras droit de Jean-Marie Tarascon sur cette étude pour pouvoir mettre ces fibres optiques à l'intérieur de la batterie, soit du côté des électrodes, soit du côté de l'électrolyte.
Ça représentait un défi technologique particulier de réussir à mettre des fibres optiques dans une batterie ?
Oui, parce qu'il fallait surtout que la fibre optique soit stable dans les conditions de charge et décharge. Et il faut savoir que dans une batterie, souvent, on a des conditions extrêmes. On a des champs électriques énormes localement qui peuvent se développer, notamment entre l'électrode et l'électrolyte, donc aux interfaces. Et ça veut dire qu'on ne peut pas mettre n'importe quel matériau, n'importe quelle fibre au sein de la batterie.
Pourquoi ? Parce que ça aurait pu les dégrader, par exemple ?
Ça aurait pu les dégrader, tout à fait. Ou ils auraient pu ne plus émettre... comme ils sont censés émettre en fonction de leurs caractéristiques propres.
Alors, donc concrètement, qu'est-ce que ça vous a permis de voir, ces fibres optiques? Qu'est-ce que vous avez appris sur le fonctionnement des batteries?
Alors, on n'a pas appris grand-chose, puisque ça, c'était vraiment la preuve de concept, c'est-à-dire travailler sur une batterie commerciale dont on connaît à peu près tous les constituants et dont on connaît aussi pas mal de produits de dégradation et de mécanismes de vieillissement. Ben, ça nous permettait surtout d'apporter une preuve de concept que ces fibres optiques nous permettent d'accéder avec précision à ce qu'on connaît déjà sur les mécanismes de dégradation. Donc il faut toujours, avant de mettre au point une technique, pouvoir la prouver sur quelque chose dont on connaît le résultat. Et en fait, là, on a eu vraiment la preuve que ces fibres optiques nous permettent d'avoir un signal infrarouge qui permet vraiment de faire le distinguo entre toutes les espèces chimiques qui vont être créées au cours de la réaction, désirées ou non, et qui vont être créées en réaction à la charge ou la décharge.
Alors, vous avez également étudié dans cette étude l'interface entre l'électrolyte et le matériau d'électrode négative, qui est appelé le solide électrolyte interphase, ou le SEI. À quoi est-ce qu'il sert, ce SEI? Pourquoi c'est important de l'étudier?
Alors, en fait, c'est en français, on dit 7 SEI, d'ailleurs. Donc, c'est une interphase. Donc, interphase, comme son nom l'indique, c'est une sorte d'interface entre l'électrode et l'électrolyte. L'électrolyte dans la batterie, il est liquide, en tout cas dans les batteries commerciales qu'on a étudiées, et le matériau d'électrode, il est solide. Donc ça veut dire qu'on a une interface liquide-solide dans la batterie, et cette interface-là, elle est capitale dans les batteries parce que, comme quand vous avez une éponge, le petit grattoir de votre éponge, il vient un peu protéger votre éponge pour qu'elle se dégrade un peu moins vite. Bah, la SEI, elle a un peu ce rôle-là. Le problème, c'est qu'en fonction de l'électrolyte qu'on va choisir et du matériau d'électrode qu'on va choisir, en fonction de la composition chimique et des réactions qui se passent, on va avoir un électrolyte qui va être plus ou moins imperméable au passage des ions lithium. Et évidemment, on ne veut absolument pas que cette SEI devienne imperméable au passage des ions, sinon la batterie ne fonctionne plus. Du coup, on est obligé de comprendre comment les électrolytes liquides se dégradent au contact de l'électrode pour voir quel type de SEI on forme et si elles sont imperméables ou perméables au lithium.
Mais du coup, ce SEI, c'est un gage de longévité pour la batterie?
Alors, ça peut être un gage de longévité si elle reste perméable au lithium et si elle a une structure qui n'évolue pas au cours des cycles de charge-décharge. Mais aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de soupçons sur le fait qu'une des principales causes des dégradations des batteries et de leur manque d'autonomie au bout de quelques cycles, c'est bien le fait que cette SEI évolue de manière pas tout à fait profitable pour la batterie.
Alors, vous avez en particulier pu observer en direct ce qui se passe lorsqu'on met en charge une batterie pour la première fois. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire ça?
Alors, en fait, oui, quand on prend la batterie au départ, quand elle n'a pas été cyclée, on pense que la SEI n'a pas la forme qu'elle a au cours des cycles. Du coup, c'est très intéressant de pouvoir caractériser cette SEI avant et après fonctionnement de la batterie pour voir si elle a évolué. Et donc, l'avantage des fibres optiques, c'est qu'elle va nous donner un signal, comme quand vous allez chez le médecin faire un électroencéphalogramme, vous avez un petit spectre qui sort, et vous ne savez pas le lire, mais nous, théoriciens, on est capable de faire des hypothèses de calcul et de calculer le signal infrarouge correspondant à chacune de nos hypothèses. Et ça a été fait par Mouna Benyaya, qui est une chercheuse maître de conférence au laboratoire à l'ICG et qui est spécialiste des calculs infrarouges. Et elle, donc, elle a modélisé le spectre infrarouge pour qu'on puisse le comparer à l'expérience et, en fonction des hypothèses, savoir laquelle des différentes hypothèses était celle qu'on observait expérimentalement.
Il y a une époque où on nous disait justement, quand on achetait un téléphone par exemple, qu'il fallait, pour la première charge, mettre son téléphone à charger en entier. Est-ce que ça vient de là ou est-ce que c'est un mythe?
Il y a pas mal de mythes autour des chargeurs, y compris un mythe que j'ai même moi-même véhiculé en disant qu'il fallait absolument charger avec son chargeur livré avec le téléphone. En fait, aujourd'hui, les progrès technologiques font que dans votre téléphone, vous avez énormément de composants électroniques qui vous permettent de ne pas faire n'importe quoi avec votre charge et votre décharge. C'est-à-dire qu'on ne charge jamais une batterie complètement à l'intérieur d'un téléphone, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'on ne veut pas atteindre des taux de charge qui pourraient donner lieu à des problèmes de sécurité. Vous avez tous entendu parler des explosions des Samsung, et ça, c'est lié à des surcharges un petit peu de la batterie. Donc aujourd'hui, tout est contrôlé au niveau composants électroniques. Mais pour répondre vraiment chimiquement à votre question, les matériaux, si vous voulez les charger et que vous les chargez qu'à moitié, par exemple, ils peuvent avoir ensuite, dans le temps, une réactivité électrochimique qui va devenir différente de celle qu'ils auraient eu si vous les aviez chargés complètement. Donc, ça dépend des électrodes qui sont mises dans les batteries.
Donc, ce n'est pas tout à fait un mythe. D'accord.
Et donc, ces travaux, ils ouvrent aussi de nouvelles perspectives. On imagine en quoi est-ce qu'ils permettraient de concevoir de nouveaux types de batteries ou d'améliorer ceux qui sont déjà existants?
Mais comme vous l'avez dit, très justement, ce dispositif, il va surtout permettre de mieux comprendre les mécanismes encore inconnus de dégradation. Quand on veut faire une nouvelle batterie, on va modifier les électrodes en composition chimique, par exemple, mais on va aussi modifier l'électrolyte. Et donc, on a, en utilisant le tableau périodique, une multitude de matériaux possibles. Ça, on en est tous très conscients. Lequel on va choisir? On va choisir celui qui va avoir le moins de chances de se dégrader. Et pour savoir lequel aura le moins de chances de se dégrader, il faut comprendre ce qui est à l'origine de la dégradation. Et grâce à ces sondes très locales, on est capable de suivre vraiment avec un petit tour de souris ce qui se passe vraiment à l'intérieur et de comprendre un peu mieux ce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui avec des analyses beaucoup plus macroscopiques de la batterie.
Et donc, ces travaux, ils pourraient aussi permettre de mieux recycler les batteries, c'est ça?
Et ben ça, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, aujourd'hui, au niveau recyclage, on a un enjeu majeur. Il y a assez peu de choses qui sont faites par rapport au recyclage, malheureusement, et on sait qu'on va en avoir besoin parce que les ressources en lithium ne sont pas infinies. Et en fait, on peut espérer qu'avec ces fibres, on va pouvoir accéder, par exemple, à des mécanismes de dégradation qui vont nous permettre de recycler mieux une batterie après. Donc peut-être qu'il sera possible, dans quelques années, de se dire, au lieu d'éviter la dégradation, on va la favoriser en mettant une température ou un stimuli extérieur particulier pour pouvoir dégrader et ensuite mieux séparer les éléments qu'on veut recycler.
Et est-ce qu'on a une idée de délai? Dans combien de temps est-ce qu'on peut imaginer des premières batteries commerciales sur le marché qui proviendront des travaux que vous êtes en train de mener?
En fait, ça c'est toujours très difficile à faire, à dire. Quand moi j'ai commencé dans les batteries il y a 20 ans, j'aurais pas imaginé qu'on en soit où on en est aujourd'hui. Personnellement, je trouve qu'on n'avance pas vite du tout par rapport aux enjeux. Et on n'avance pas vite parce que souvent, on est bloqué sur des réactions chimiques qu'on connaît, électrochimiques qu'on connaît. Et puis, on n'ose pas aller vers l'inconnu pour essayer des choses complètement exotiques. Et je pense que une partie des progrès futurs ou des avancées futures sera forcément faite par... ce qu'on aura compris grâce à ces fibres optiques. Donc il faut évidemment aller dans ce sens, mais coupler ces études avec toutes les autres études qu'on fait aujourd'hui, tant sur le plan expérimental que théorique.
Un grand merci à vous, Marie-Liesse Doublé, c'était passionnant et on en sait un petit peu plus sur ce qui se passe dans ces petites boîtes noires. Et donc on passe maintenant à notre séquence reportage. Aline, je te laisse la parole.
Oui, on part aujourd'hui au laboratoire Géosciences Montpellier et plus précisément sur le plateau de géochimie où on va remonter le temps pour reconstituer l'histoire de la Terre grâce à un spectromètre de masse dédié aux gaz rares. C'est Michael Bonneau qui décortique pour nous le fonctionnement de cet instrument et Philippe Munch nous dira ensuite quelques mots sur son intérêt dans la recherche en géologie.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55... 59.
Bonjour, alors je m'appelle Michael Bonneau, je suis ingénieur d'études à Géosciences Montpellier, au bâtiment 22 du campus Triolet.
Donc on est sur la plateforme gaz rare Géosciences Montpellier et je suis face à un spectromètre de masse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors oui, c'est un spectromètre de masse à gaz et plus particulièrement ici on mesure des gaz rares et plus particulièrement des isotopes de l'argon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer avec des lasers, on a différents lasers en fonction du type de mesure qu'on veut faire. Des lasers infrarouges, lasers UV. On va chauffer des échantillons qui ont à peu près la taille de grains de sable. Et l'idée, c'est de faire dégazer ces échantillons, faire sortir les gaz et ensuite les mesurer dans le spectromètre de masse.
Et on peut regarder où est-ce que vous les mettez, ces gaz-là, dans le spectromètre? Parce que la taille d'un grain de sable, c'est une très 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 petite quantité de gaz alors que vous allez analyser.
Alors, c'est quelques milligrammes environ. Et donc l'ensemble de la machine est sous ultra-vide. Donc on a du pompage primaire, secondaire avec des pompes turbo ioniques. On va faire sortir les gaz de ces échantillons, donc en chauffant avec le laser.
Ensuite, on chauffe à quelle température avec le laser?
Alors, on finit autour de 1000 à peu près, quoi.
Et 1000 degrés Celsius?
1000, voire un petit peu plus, ouais. 1000 degrés Celsius. On va fondre à la fin, ça se termine quand l'étape finale, ça fait une petite bille de verre, quoi. Donc ce gaz qui est sorti ensuite, on va le purifier par différentes étapes. Et une fois qu'il sera purifié, on va le faire rentrer dans le spectromètre de masse à proprement parler. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer, les atomes vont passer dans une source. Le principe de la source, ça va être de ioniser les atomes. Donc les atomes, ils vont passer à travers un flux d'électrons, on va dire, qui vont les bombarder. Ça va leur faire perdre un électron. En face, on va leur mettre une haute tension, qui vont les accélérer dans un tube, ils vont passer dans un champ magnétique et les plus lourds partiront vers l'extérieur, les plus légers partiront vers l'intérieur. Et donc en face de ça, on va mettre des détecteurs qui vont permettre de quantifier combien on a de chaque isotope qui sont sortis dans les gaz.
C'est un isotope, vous pouvez me préciser ce que c'est ?
Alors dans notre cas, là, on va mesurer les isotopes de l'argon, donc ça va être l'argon 36, l'argon 37, l'argon 38, l'argon 39 et l'argon 40.
Et donc les échantillons que vous avez, j'imagine qu'on vous les ramène du terrain, ce gaz-là, il est prisonnier dans la roche?
Oui, parce qu'en fait, donc, l'idée, c'est que plus on va profond, plus la température et la pression augmentent. Et donc, on est sur des réseaux cristallins qui sont ouverts. Et plus on se rapproche de la surface, plus ces réseaux cristallins se ferment. Et donc, on piège des gaz. Et donc, l'idée, là, c'est de faire des mesures sur des radioisotopes. C'est-à-dire, on a des éléments pairs, des éléments fils. Et c'est ça qu'on va quantifier à travers les différents isotopes.
Et des spectromètres comme ça pour l'étude des gaz rares, il y en a plusieurs à l'Université de Montpellier?
Alors nous ici on en a 4, pour ce type de mesure on est les seuls.
Est-ce qu'on peut juste décrire un peu, là ce que je vois c'est comme on a dit tout à l'heure un ensemble de tuyaux, tout passe dans ce circuit-là?
Oui, donc l'échantillon il est sous un hublot ultra-vide, toutes ces pièces sont des pièces ultra-vide, donc c'est un hublot à travers lequel on voit un porte-échantillon. Le gaz va sortir, il va passer dans tout un tas de tuyaux, des vannes, qui vont faire de manière automatique les différentes étapes de purification qu'on veut faire.
Et le spectromètre à proprement parler, c'est cette machine-là? Une fois qu'on a purifié, on arrive dans le spectromètre?
Là, le spectromètre est ici, ouais. On a la source au début, qui donne sur une vanne et une pompe en dessous, pour quand si on veut repomper, une fois qu'on a fini l'analyse, on vient pomper directement en dessous de la source. Après la source, on a un tube qui est à peu près à 90 degrés, je crois, et qui passe, lui, dans un gros électroaimant. Et c'est ce gros électroaimant qui va faire le tri en masse des différents isotopes. Et à l'issue de ça, on arrive dans un petit bloc collecteur dans lequel il y a différentes cages de Faraday, les unes après les autres, qui vont être les collecteurs et un multiplicateur d'électrons.
Une cage de Faraday, c'est-à-dire ?
C'est un peu comme une boîte de conserve, on mesure les ions qui viennent taper dans le fond et ça va créer un courant.
Et donc, au final, je vois qu'il y a 3 écrans, 4, 5 écrans d'ordinateur, même 6, 7, 8 écrans dans la pièce. Au final, les résultats, vous les obtenez sur l'ordinateur. Ça ressemble à quoi ?
Ça ressemble à des séries de chiffres pour chaque type de masse. On va faire une dizaine de mesures sur les 5 masses de l'argon 36, 37, 38, 39, 40. Voilà, et ça va nous donner une quantité à la fin, une régression qui va nous donner une valeur, la quantité de gaz de chaque élément qu'on a dans le spectromètre pour une mesure donnée.
Bonjour, je suis Philippe Munch, professeur à l'Université de Montpellier et je suis géologue.
Et donc, vous, en tant que géologue qui travaille dans ce laboratoire, à quoi ça vous sert ces données-là issues du spectromètre gaz rare?
Alors, les mesures qu'on fait grâce au spectromètre gaz rare qu'a mis en place qu'utilise Michael, ce sont des mesures qui nous permettent de calculer l'âge des roches grâce aux isotopes radioactifs, donc l'argon 40 est produit par la désintégration du potassium 40, et ces âges nous permettent de reconstituer l'histoire de la Terre. Donc il est important, une histoire qui dure 4 milliards et demi d'années. Et ce qu'on fait principalement ici, c'est dater la déformation, et en particulier dater la déformation le plus proche de la surface pour avoir l'âge de fonctionnement des failles, et en particulier les failles les plus récentes qu'on peut trouver à la surface de la Terre.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56.
Merci 55. Aline pour ce reportage et on enchaîne avec notre invité de dernière minute. Et aujourd'hui, nous accueillons dans le studio la responsable communication du CNRS Occitanie-Est, Aurélie Lieuvin. Bonjour.
Bonjour Lucie.
Et donc bienvenue dans Allume la science. Donc vous êtes venue pour nous parler d'un rendez-vous mensuel du CNRS, les cafés et vidéos. Alors bon, on devine un peu le concept, mais qu'est-ce que c'est exactement ce rendez-vous?
Alors quand ça se passait en présentiel, c'était un café puis hop, une petite vidéo. Donc c'est un film de CNRS Images. Donc le CNRS a une structure qui s'appelle CNRS Images qui coproduit des films que vous pouvez voir sur Arte, France 5, enfin voilà, toutes les qui en général diffusées. Donc c'est des 52 minutes qu'on sélectionne pour sur les critères qui sont les suivants, ceux qui nous plaisent le plus. Voilà. On essaye de matcher avec les thématiques scientifiques qu'on a ici en région, mais bon, en général, ça fonctionne pas, donc on s'en fout. On prend ceux qui nous plaisent le plus parmi donc les nouvelles coproductions que CNRS Images peut nous proposer.
Donc toujours avec des chercheurs du CNRS
Alors oui, en général, il y a une coproduction CNRS Images quand il y a soit un apport scientifique du CNRS, soit des chercheurs CNRS qui sont interviewés dans le film. Voilà.
Très bien. Donc j'ai regardé le programme. Donc c'est une vidéo qui est proposée chaque mois. Donc dans le programme, j'ai vu À la recherche de la musique de l'Antiquité, quand l'homme ne sont pas là, les animaux dansent. Comdraï, ça se dit Comdraï ?
Comdraï, oui.
Comdraï à la découverte du premier humain. Donc on balaye tout le spectre des sciences.
Ouais. On essaye de varier en effet les plaisirs. Alors après, on se rend compte qu'on a quand même une grosse prévalence de sciences humaines et sociales. Hein. Alors, peut-être pas celui « Quand l'homme n'est pas là, les animaux dansent », qui est sur le confinement, en fait, hein, et sur l'effet sur la nature du confinement. Celui-là, je vous le conseille. Enfin, je vous les conseille tous, mais j'ai vu l'épisode... Ça, c'est l'épisode 2 qu'on va diffuser là. Et on a diffusé l'épisode 1 lors du Festival Sud de Sciences. Et il était vraiment génial. Je sais pas si tu y étais, ici.
Je le dirai pas en direct. C'était tôt le matin. J'allais vous demander justement, est-ce qu'il y a un chouchou dans cette programmation, donc vous en proposez, donc là, si ça va jusqu'en juin, un par mois, de janvier à juin.
Bah, j'avoue que là, cette année, comme on fait tout en ligne, pour des problèmes techniques en fait, hein, on ne peut pas le faire du coup dans notre amphi au CNRS, donc ça veut dire que le café, vous le payez vous-même en fait, hein, chez vous. Dans le canapé, tranquille, à 13h30, un jeudi par mois. Alors, on profite du fait que ça soit tout en ligne pour demander à des stars d'intervenir après notre film. Donc typiquement, là, le 9 mars, on a un film qui est sur Jean Jouzel dans la bataille du siècle, donc sur le changement climatique. On lui a fait un petit mail pour savoir s'il voulait bien discuter avec nos spectateurs ce jour-là.
Et oui, parce que dans Café et Vidéo, effectivement, il y a le café avec un chercheur.
Voilà. Et là, ben Jean Jouzel, il a dit oui. Donc, on est plutôt assez contente. Donc, on espère qu'il y aura plein de monde pour la séance avec Jean Jouzel. Après, j'ai déjà dit un peu mon préf aussi. Hein. Enfin, franchement, à la fois l'intérêt scientifique et la beauté factuelle, la beauté formelle de quand l'homme n'est pas là, les animaux dansent, est quand même assez chouette à regarder. Enfin, tous ils sont chouettes.
Donc celui-là, ce sera en avril.
Alors, celui-là, ouais.
Sur un aspect totalement concret, comment ça marche, comment on se connecte, parce qu'ils ne sont pas en accès, on ne les trouve pas n'importe où sur le net, ces films-là.
Donc, exactement, hein, c'est juste au moment où on les diffuse que vous les voyez. Donc vous allez sur le site web occitanie-est.cnrs.fr. Vous avez tout sur la page d'accueil. Toutes les séances ont été mises avec le lien Zoom. C'est à 13h30. C'est en général le premier jeudi, mais quelquefois, ben, par exemple, là, en janvier, c'est le 19. Je crois qu'en mai, il y avait des histoires peut-être de ponts ou de vacances. Donc, du coup, c'est le 11 mai. Voilà. Mais sinon, c'est le premier jeudi du mois à 13h30 avec votre café, sur votre canapé et enjoy.
Et pour poser des questions aux chercheurs?
Alors après, ça se passe après le film, après la diffusion du film, bien entendu. Donc ça se passe tout par chat, parce que c'est plus fluide. Donc ma collègue qui anime le café vidéo posera les questions qui seront posées par chat par le public.
D'accord, donc le prochain numéro, c'est le 19 janvier. On parlera de la grotte Cosquer, c'est bien ça?
Oui.
Et donc c'est avec quel intervenant?
Alors ben, pareil que pour Jean Jouzel, comme on n'est pas limité par la géographie, on a invité les protagonistes scientifiques qui sont dans le film. Donc on aura Cyril Montoya qui est le directeur de la mission scientifique Cosquer, qui est donc cette grotte ornée sous-marine unique au monde et qui va certainement être submergée dans les années qui viennent. Et donc, un fac-similé a été créé. Donc, c'est l'aventure de, à la fois de la découverte de cette grotte et à la fois de la création du fac-similé créé à Marseille. Donc, Cyril Montoya sera avec nous. Il est aussi chef du service régional de l'archéologie Occitanie. Et on attend encore la confirmation de Vincent Olivier, qui est géomorphologue CNRS à Aix-en-Provence.
Super, donc 6 rendez-vous à ne pas manquer. Merci beaucoup Aurélie.
Merci Lucie.
Donc Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui déjà. Un grand merci à Naomi Charmetant pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.